Gameblogueuse, gameblogueur, bienvenue dans le podcast 290 de la rédaction de Gameblog. Avec moi aujourd'hui Julien. Julien, est-ce que ça va?
Yo!
Yo quoi? Comment ça, yo?
Allez, ça swing quoi!
Ah, d'accord, mais tu 290, tu le crois ça?
Tu le crois ça? C'est génial!
C'est
génial!
Hein,
c'est... Ouais. Yo! Ah, arrêtez les mecs là, faut ouais, pas déconner, c'est moi qui ai le copyright. Hein.
Ah merde. Merde, c'est du vol et du plagiat.
Ah, tu le crois ça? Copyright AHL. Ah, attends.
Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, le podcast 289. Avec moi aujourd'hui, nous avons Julo.
Bonjour.
Julien Chiez.
Bonjour.
Et AHL.
Bonjour.
Oh, tu fais vachement bien, nounours.
Moi, je m'attendais à ce qu'ils y fassent. Yo.
Eh ben non,
yo
pour une fois.
Pour une fois, on ne fait pas. Ensemble, messieurs, nous allons parler de vol et de plagiat, parce que j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Alors que plusieurs affaires en ce moment secouent, ou fausses affaires, hein, y a des faux procès aussi, secouent un peu la planète jeux vidéo, notamment la société King. Nous avons décidé de revenir sur les contrefaçons de l'histoire du jeu vidéo, celles qui ont éclipsé leur modèle, celles qui sont tombées dans l'oubli ou qui ont appris à composer avec les avocats aussi, hein, et c'est arrivé une paire de fois. On va revenir aussi sur le cas d'un éditeur très habile dans le domaine, je ne le nomme pas tout de suite, vous verrez tout à l'heure.
Suspense,
exactement, peut-être que vous le savez déjà chez vous. Et puis nous évoquerons aussi les copies éhontées sur le plan musical ou sur le plan du hardware.
Ah, il y en a des belles.
Ah oui, il y a tout
dans
ce qu'il faut.
Il y a de tout. Hein.
Il va y avoir de la matière et de la matière. Les membres premium en ont aussi, avec un accès au podcast en avance et en vidéo. Et ce n'est pas le seul avantage, évidemment. Hein. Je le rappelle, les membres premium, vous pouvez voir des émissions exclusives en avant-première, comme celle d'Alain, d'ailleurs, les histoires du
ah
jeu
oui,
vidéo.
Absolument, au hasard.
Et attention, si Alain est là aussi, c'est que la saison 3 va véritablement commencer.
Ah.
Cette semaine, voilà.
C'est vrai ?
Mais oui, parce que là, il y a eu quelques épisodes qui étaient des épisodes inédits, qu'on vous avait mis pour attendre un petit peu. Mais la saison 3, elle arrive avec la guerre des consoles.
Et oui, absolument, la guerre des trois.
La guerre des trois, quelle trois?
Les trois, bah, c'était la PlayStation qui arrivait face à la Saturn et la Nintendo 64.
D'accord.
C'était une belle bagarre.
Ah, tu nous donnes un petit avant-goût, tu me mets l'eau à la bouche là, en en parlant, rien que comme ça. Je rappelle aussi évidemment qu'il y a d'autres émissions, hein. Il y a le backstage de Huawei et Cyril Drevet, il y a le comptoir de gamer de Twister, et puis à côté de ça, bah, il y a des interviews, des concours, des reportages exclusifs, ça vaut le coup.
Il y a une interview de Frédéric Reynal.
Oui.
Qui est assez intéressante,
très
intéressante, de Little Pig Adventure et
sa
volonté d'en avoir
faire un
troisième épisode, etc.
Ah, j'aimerais bien, moi j'adore.
Mais je crois qu'il y a eu un petit, il y a pas eu une petite ristourne là sur le net il y a pas très longtemps pour avoir les deux premiers genre à un prix mais dérisoire. Si hein, il me semble un petit week-end on a
ah
eu
oui
droit
j'ai
ça.
Raté ça en marche
les
tout,
ouais. Tu les as fait?
Oui, j'ai fait deux fois le premier tellement j'ai aimé.
C'est vrai.
Et genre faut bien une troisième.
Ah, je vais vous faire une confession, hein, c'était trop dur, enfin c'était trop relou à jouer pour moi. C'était compliqué.
Quand tu vois comment le personnage se déplace,
c'était
assez compliqué.
C'était vachement fou.
Quand tu le revois aujourd'hui, tu te dis comment on a fait pour ne pas péter un câble.
Ben voilà, moi j'ai pété un câble.
C'est aussi ça. Ça donnait un charme vraiment.
Oui, oui,
c'est ce qu'on appelait la French Touch à l'époque.
Évidemment.
Puis on avait plus de temps, donc bon, on excusait un peu plus de choses.
Ah ouais, non, moi j'avais pété un câble direct. Je l'ai tout de suite. Ah ouais, non, je sais pas.
Tombé sous le charme, il y avait ce personnage, je trouve qu'il était charismatique, il était vraiment.
Ah ouais, mais les problèmes de maniabilité, je crois que ce sera mon plus gros problème.
C'est pour ça que t'adores Flappy Bird.
C'est pour ça que j'adore Flappy Bird. Bah, effectivement, on s'est dit qu'on allait faire ce podcast sur le plagiat, le vol, la contrefaçon, parce qu'il y a eu
une agitation,
un séisme.
Un phénomène
que vous avez forcément vu sur Gameblog, qui concerne un développeur vietnamien donc, qui s'appelle Dong Nguyen, qui a réussi un beau coup avec un petit jeu tout bête qui s'appelle Flappy Bird, et qui, en quelques jours, est devenu un phénomène. Un phénomène financier aussi, parce qu'il a avoué qu'il faisait 50 000 dollars par jour.
C'est même à partir de là que c'est devenu un phénomène. En fait, ouais, ça intéresse les gens à partir du moment où quoi 50 000 dollars par jour et là, d'un seul coup, les gens s'intéressent.
Et ce garçon, donc, s'est vu un petit peu accusé de plagiat. Pas à tort pour certains éléments.
C'est maintenant ou c'est après? On balance tout maintenant ou
allez,
on
balance
tout,
allez, balance la sauce, vas-y.
D'accord.
Vas-y,
alors déjà, ce qui est intéressant quand même pour revenir rapidement sur cette histoire de Flappy Bird, c'est de voir que le jeu, il n'est pas sorti il y a 3 semaines ou même un mois. Ouais. Il est sorti en 2013. Il y a pris plus de 6 mois. Et que bon, il est sorti dans l'anonymat le plus total, rien du tout, 3,5 téléchargements à tout casser. Puis alors, soudainement,
il a commencé à le marketer.
Alors, bah, en fait,
il a acheté des notes.
Il y a PewDiePie déjà qui a fait une vidéo. Alors, vous savez qui c'est, hein, PewDiePie, c'est le YouTuber numéro un au monde, c'est-à-dire qui est un YouTuber jeu vidéo, plus de followers que Lady Gaga, Madonna, Barack Obama, ou ce que tu veux.
Mais pas Katy Perry, j'espère.
Bah, bien sûr que si. C'est le mec qui fait chacune de ses vidéos, c'est 12 millions de vues, 20 millions, 30 millions. Non, mais il a des. Enfin, c'est surréaliste. Mm. Et il a fait une vidéo sur Flappy Bird, où il pète des câbles, etc. Boum, il y a eu une explosion du nombre de téléchargements, etc. Après, en plus, il y a des soupçons, mais honnêtement, tous le font dans le marché des App Store, Android ou iOS, c'est d'acheter des bonnes critiques, des étoiles, etc., pour te faire monter dans les classements.
Ah oui, c'est le jeu.
Bon, voilà. Et à partir de là, effectivement, il a commencé à avoir aussi des interviews où il annonçait qu'il gagnait 50 000 dollars par jour, etc. Mmh. Emballement médiatique, a touché la presse généraliste, la presse spécialisée, enfin tout le monde. Et puis surtout, il a fait un coup de com' incroyable, le Rise and Fall, le ivre un soir, il décide de tout casser. Et c'est-à-dire, il annonce dans 22 heures, le jeu, je vais le retirer. Ah ouais, et il le fait, et le jeu est désormais indisponible, le méga coup marketing. Il faut quand même savoir qu'à son pic, hein, on va dire il y a à peu près 2 semaines, c'était quand même quasiment 2 millions de téléchargements par jour. L'application, enfin le jeu est gratuit. On rappelle que c'est un jeu assez médiocre dans l'absolu, mais les pubs continuent à tourner, donc en plus ils continuent à se faire de la caillasse à fond. Et puis il y a tous les fantasmes et il y a toute la magie du truc, argent. Il y a pas d'histoire de cul, mais ça va arriver à un moment.
Oh, ça va arriver.
Et puis donc les histoires de plagiat.
Ah oui, les histoires de plagiat. Donc premier, on va dire à dégainer dans cette histoire, c'est le programmeur d'un jeu qui est sorti en 2010, qui s'appelle Piu Piu contre les cactus, qui a effectivement quelques similitudes, notamment visuelles. Dans le principe, c'est pas exactement la même chose.
Mais ça n'a même rien à voir.
Voilà.
Pour être honnête.
Ouais, toi t'as essayé les deux. Hein.
Ah bah c'est un Français. Alors il s'appelle Cake. Enfin son nom d'artiste, c'est Cake. Et effectivement. Il y a deux plagiats, on va dire. On va commencer avec celui de Piu Piu pour Flappy Bird.
Qui n'en est peut-être pas forcément.
Alors voilà, il a mis sur son Twitter, regardez, c'est quand même un petit peu pareil, une image de Piu Piu contre les cactus et l'opposant à Flappy Bird. Alors effectivement, dans les deux cas, on voit un petit oiseau jaune avec des grosses lèvres et dans un cas, des cactus verts et dans l'autre, des tuyaux verts. Bon, alors forcément, on voit ça, tout le monde fait « Oh putain, le plagiat de ouf !» etc. Après, tu joues aux deux jeux. Le gameplay n'a rien à voir. Ça veut dire que dans Piu Piu, il n'y a pas de game over. Dès que tu touches un objet, un cactus ou quoi que ce soit, tu continues, tu perds juste des trucs. Tu as des bonus qui arrivent qui te permettent d'accélérer, de prendre de la hauteur, d'être invincible, etc. Enfin, vraiment, le jeu n'a rien à voir. Après, effectivement, il y a des similitudes visuelles. Moi, c'est ce que je dis aussi, c'est oiseaux avec des grosses lèvres, Cake et Piu Piu n'ont rien inventé. Rappelez-vous Kuru Kururin sur Game Boy Advance et regardez les visuels.
Quel jeu génial.
C'était top, mais c'est bien antérieur à Piu Piu et c'est déjà des oiseaux avec des grosses lèvres. Et puis, en fait, si on regarde bien, les vrais plagiés, ceux vraiment... Parce qu'en plus, Cake, du coup, a dit bah, « je ferai pas de procès, machin et tout », parce que je pense qu'il sait lui-même qu'il ne gagnerait pas. C'est Nintendo, un peu plus. Parce que là, les tuyaux ressemble quand même vraiment aux tuyaux des Mario.
Exactement les mêmes Mario, les mêmes que de
Mario. Et le petit oiseau ressemble un petit peu au poisson des Mario, avec ses grosses lèvres, etc. Donc on va dire c'est peut-être plus là. Mais après, est-ce que c'est vraiment du plagiat ou est-ce que c'est pas plutôt
comme dirait Arthur, un hommage.
Oui, ou c'est un clin d'œil, oui, je pense.
Plus, bon, où je me suis pas embêté, quoi. Je vais prendre un truc que tout le monde connaît, ça marche. Visuellement, ça marche, en tout cas. Donc bon, autant y aller, quoi.
Et je pense que ce qu'on va voir dans le podcast, c'est de voir que le jeu vidéo, et puis comme plein d'autres médias, œuvres, s'inspire, prend des éléments,
plagie,
retravaille.
On le verra tout à l'heure, c'est peut-être pas forcément un mal non plus. Peut-être pas. En tout cas, ça c'est pour l'affaire Flappy Bird contre Piu Piu contre les cactus.
À noter que Nintendo a dit qu'ils s'en foutaient.
Ouais, je pense.
Ouais, ils ont regardé le truc, ils ont fait oui, non, on compte rien dire.
Je pense pas que ça leur fasse de l'ombre.
Ouais. Et c'est donc vraiment, on peut leur faire confiance parce que vraiment, quand ils pensent qu'il y a un doute, ils font pas de cadeau.
C'est pas les derniers à dégainer.
Franchement, s'ils ont dit non, on peut.
Mais vous avez vu que, ironie du sort, quand même, j'ai vu un tweet de Cake justement passé qui disait que son jeu, il avait essayé de le remettre en ligne sur l'App Store et il a été refusé.
Ah bon ?
Et le store lui disant voilà, c'est, vous tirez parti du phénomène Flappy Bird, je sais pas quoi, vous pouvez pas le remettre en ligne.
Alors depuis ? Il est disponible.
Ah, il est disponible depuis.
Ça s'est arrangé.
Mais c'est marrant qu'il se soit fait refuser l'accès alors que non seulement le jeu était antérieur.
C'est genre, tu construis ta baraque, il y a des vigiles à l'entrée qui disent non, désolé, les mecs.
Mais j'avais construit il y a 3 ans. Bah non. Mais pour info, justement, Apple et Google sur les App Store Android et iOS, il y a eu tellement dans le sillage de Flappy Bird, parce que c'est quand même un truc de fou. Ça veut dire que véritablement, là, suite au retrait de Flappy Bird, le top 5, les top des stores, etc., ont été phagocytés
Flappy
par
quelque chose,
par
Blablabird.
Que des vraiment des clones là, des vrais crevards là, par contre des vrais mecs qui ont juste essayé de récupérer 10-15 000 euros.
Mais c'est comme
etc.
ça depuis toujours sur l'App Store. Hein.
Ouais, mais alors là dans des proportions
vidéo.
Telles.
Ouais, bah là c'est parce que le Flappy Bird ayant pris des proportions telles, sur voilà le plagiat.
Tel que Apple et Google désormais interdisent, enfin suppriment et ne valident pas les jeux qui portent la mention Flappy dans leur nom. Et ce qui pose des problèmes parce que par exemple il y a eu un jeu qui s'appelle Flappy Dragons, qui vraiment là n'a rien à voir avec Flappy Bird, parce que le mot Flappy, bon, c'est Flappy, et bah qui est un peu dans la merde, il fait non, mais les gars, wow, je comprends bien votre idée, mais nous on n'a rien à voir quoi.
Ouais, mais il faut savoir aussi qu'il y a un Kickstarter hein, qui a été lancé ce lundi matin aux États-Unis, un Kickstarter pour Flappy Bird 2. qui n'est pas du tout du fait de Dong Nguyen, c'est des Ricains qui se sont dit allez, on a besoin de $50,000 pour faire la suite de Flappy Bird sans autorisation, sans rien, sans droit.
Mais oui, parce que Flappy Bird, le nom appartient quand même à Dong Nguyen.
Il y a des grandes chances quand même, oui. Ils s'en foutent, visiblement. Ils s'en disent $50,000 en Kickstarter. Alors, au moment où j'ai regardé, au moment où on enregistre, ils étaient toujours à zéro. Mais on ne sait jamais. Ça se trouve, ça va être un emballement médiatique et financier sans précédent.
Grâce au podcast des Game Blog.
Bien sûr. Mais ce qui est dingue, c'est de voir là, par contre, puisqu'on est dans un podcast sur le plagiat, etc., bah, du coup, dans le sillage de ce jeu, le nombre de Flappy Like qui sont sortis, le Flappy MMO. Il y a Orangina qui s'est lancé dans le truc en faisant un Flappy, comment ils appellent ça, Flappy Orangina ou je sais pas quoi, qui est vraiment avec, tu sais, leurs petites les petites trucs tout fruits là, machin, etc., que pareil, avec des petits tonneaux, des petits trucs, enfin il y en a, mais il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. C'est un phénomène comme il y en a rarement eu, hein, honnêtement.
Un Flappy Man,
ouais, un Flappy Man, ouais.
Un autre phénomène, c'est Candy Crush, qui, vous le savez, est une manne d'argent incroyable pour sa société, c'est King. Sauf que la semaine dernière, y a eu un petit rebondissement. Parce que King, ils sont depuis quelques temps habitués à vouloir déposer leur marque. Candy a été déposée aux États-Unis, genre plus aucun jeu pourra s'appeler.
Je pense qu'ils sont devenus ivres.
Oui, aussi.
Ivres d'argent, ivres de.
Ivre
là,
de
dans, leur dans leur tête, là, c'est un peu grillé. Quoi.
Et ils ont voulu évidemment déposer Saga aussi, sous là où je pense que c'est pas gagné encore.
Bah, pour
sauf pourquoi que la semaine dernière, il y a la société Ransom Apps, pardon, qui est intervenue, qui a fait une petite lettre publique à King en disant hey, regardez bien. Moi, en 2010, j'ai créé un jeu qui s'appelait Candy Swipe. Regardez un petit peu. Mais dites donc, ce ne seraient pas les mêmes fruits, les mêmes bonbons. Et le mot sweet, là, il ne serait pas exactement avec la même typo que mon jeu il y a 3 ans. Et donc, on en est arrivé là. Ce qui est quand même assez étonnant pour une société qui s'amuse à sécuriser quasiment tout.
Mais tu sais pourquoi on en arrive là ? C'est parce que King les a attaqués.
Oui.
À la base.
Oui,
c'est-à-dire que jeu antérieur, pourtant il se fait attaquer. Jeu où clairement, là, il y a du plagiat évident de la part de Candy Crush. Ouais.
C'est celui qui plagie qui attaque.
Exactement.
C'est quand même ça qui est incroyable.
C'est un truc de malade.
Ouais. Mais ils sont devenus fous.
Mais ils sont devenus fous. The Banner Saga. Ils ont attaqué The Banner Saga.
Oui, parce qu'il y a le terme saga.
The Banner Saga, les gars, c'est RPG.
C'est impossible qu'ils gagnent ça quand même.
Non, ils peuvent pas.
C'est pas possible.
Non, mais t'imagines si on retire, enfin, je sais pas, les romans de saga, les sagas frontières.
Oui, non, mais voilà. C'est insensé.
Non, mais ils sont devenus ivres. Vraiment.
Si on retire Sagat de Street Fighter.
Voilà, c'est ça. Il
s'appelle Raté. Voilà, ça serait.
Comment il va faire Yannick Noah, hein?
Comment il va faire? Exactement aussi. Non, mais vraiment, il y a des choses incroyables. Mais aussi, cette accusation d'un ancien d'Ubisoft, Charles Randall, ou Charles Randall, je sais pas comment on le prononce, qui
attends,
est sûr.
Juste une seconde, t'as pas dit ce qu'ils ont fait du coup du coup, ils ont racheté un jeu antérieur.
Oui, en de 2004, c'est
voilà,
ça.
Voilà, pour pouvoir
Candy Crusher, je crois.
Voilà. Ouais, Candy Crusher.
Pour pouvoir dire, non, finalement, on l'avait avant vous.
Non, mais cette histoire n'est pas finie. Alors, on enregistre ce podcast et c'est tellement ubuesque et surréaliste là. Enfin, que cela, c'est vraiment de l'argutie juridique qui fait presque un peu peur parce que tu te dis, avec beaucoup d'argent,
si ça
des superbes avocats et machin.
Oui, oui.
Moi, je fais de plus en plus. Hein. Je me dis, un jour, je vais aller pisser, je vais me faire arrêter. pourquoi ? Tu y a un chiotte d'une autre marque, etc. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On est vraiment dans des extrêmes aujourd'hui où il se passe n'importe quoi.
Pas grand-chose à voir avec le jeu et avec le plaisir.
Malheureusement, non. Et malheureusement,
on en
non.
est loin.
Alors, je le disais, donc, avant de me faire interrompre par Julot. Et
excuse-moi, mais il fallait préciser la fin
de
l'affaire.
Disparaît de ce podcast. Ah,
d'accord.
Pouf,
pouf.
Charles Randall, un ancien d'Ubisoft, qui a programmé Assassin's Creed 2, est aussi assez certain d'avoir reconnu des routines du jeu qu'il a programmé dans un jeu de Monolith Productions à paraître chez Warner Interactive cette année. C'est Les Ombres du Mordor. Il a dit, c'est exactement le même jeu. C'est le code, c'est les routines, c'est tout.
Le code, je sais pas.
Et ça y ressemble.
Mais pour autant, je sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo, effectivement. Alors le jeu a l'air cool, hein. Moi je trouve que c'est un Seigneur des Anneaux qui a l'air vraiment classe.
On peut lire les impressions de Mimic d'ailleurs à ce sujet et qui n'hésite pas d'ailleurs à dire, ouais, ça ressemble beaucoup à ça.
Ah ben non, mais voilà, parce que quand tu le regardes, tu trouves ça cool, mais pour autant tu fais, putain, c'est quand même vachement assez.
Ça me dit quelque chose.
Le mec, il se déplace pareil. Tu sais, il y a les câbles, les fils, les cordes, etc.
Les tyroliennes, quoi.
Qui relient deux bâtiments sur lesquels, tu sais, tu marches comme ça avec les mains pour être en équilibre. Les kill moves, c'est pareil. T'as le truc, tu sais, genre la vue d'aigle, genre comme ça, qui te permet de repérer tes trucs. Alors, une fois de plus, c'est pas Assassin's Creed qui l'a inventé, mais on va dire que retrouver
c'est le cocktail,
autant
quoi,
d'éléments.
Voilà. Ah, mais lui, il pensait carrément que c'était le code source, hein, d'Assassin's Creed. Hein. Là, ça devient quand même autrement plus dangereux.
Bah, je pense qu'ils vont faire gaffe et qu'ils vont changer un peu le code si jamais c'est le cas d'ici la sortie.
Parce que si ça se peut que ce soit un ancien qui soit du haut, tiens, je vais prendre le code sur moi.
Ah, là, ce serait chaud.
Ce genre de truc est extrêmement sécurisé. Hein. Tu pars pas avec une clé USB quand tu développes Assassin's Creed.
Oh là 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 là, on ne sait jamais, tu sais, il se passe des choses tellement incroyables. Bref. Les plagiats, ça date pas d'aujourd'hui. On va revenir un petit peu d'ailleurs sur le phénomène depuis ses débuts. Avant, quand même, on peut rappeler que le plagiat, en général, on essaye de se dire que le jeu vidéo, c'est le gameplay en premier. Et il est arrivé effectivement dans l'histoire du jeu vidéo qu'on attaque pour ce genre de choses et on se dit, est-ce qu'il y a des encadrements au niveau juridique, au niveau judiciaire ?
Pour les concepts, quoi.
Pour les concepts, exactement. Alors, par exemple, je peux vous citer en 94 une attaque en règle de Capcom envers Data East parce que Street Fighter 2 avait été littéralement cloné par Fighters History. Allez voir, hein, n'hésitez pas à aller voir sur internet, vous verrez, il n'y a aucune différence entre les deux jeux. Même perso, même animation, tout quasiment. Hein. Et la cour à l'époque, donc en 94, avait conclu qu'il y avait des similitudes, mais que les combattants, déjà dans Street Fighter, s'inspiraient déjà de stéréotypes. Et donc, ce n'était pas copyrightable en soi. Donc ça fait partie des petits éléments judiciaires. Mais il y a eu un autre arrêt, cette fois en France, concernant le jeu vidéo. C'était la Cour de cassation qui avait indiqué en juin 2009, le 25 juin 2009, que le jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature. J'ai réussi à respirer pendant ce truc. C'est du droit, c'est chiant, c'est long. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. En gros, le gameplay, tu peux faire ce que tu veux. Attaque, ça servira à rien.
Mais on le voit, on peut le constater, c'est-à-dire sans partir extrêmement loin, sur cette génération, par exemple, Gears of War a généralisé le cover system qu'on a vu.
Il a simplifié, on va dire, il a fait un truc tellement simple.
Voilà, et puis même visuellement, caméra épaule, mec, il se colle contre le truc.
La caméra épaule, c'est
Splinter Cell.
Splinter Cell.
Mais même avant, il y en avait eu, parce que même le cover system, en fait, il y avait eu un jeu sur PS2 de Namco, je crois, qui s'appelait Kill Switch ou un truc comme ça, qui faisait à peu près la même chose. Enfin bon, on va dire, c'est vraiment Gears qui l'a généralisé, on l'a retrouvé après. C'est pareil. Halo a démocratisé ce système où tu reprends de la vie en te cachant derrière un truc et puis ton bouclier se remet.
Qui est maintenant dans tous les FPS.
Et qui en retrouve partout. Et on dit pas, c'est du plagiat. Et tant mieux. Mario, alors si Mario a fait le jeu de plateforme, alors maintenant on peut plus faire aucun jeu de plateforme.
En fait, il y a juste une différence entre reprendre des idées et les adapter à sa sauce dans un jeu original. Et en l'occurrence, par exemple, le bouclier de Halo, etc. Et plagier, là en l'occurrence entre Data East et Capcom, où tu repompes exactement le concept, quasiment le visuel et tout.
Donc il y avait 22 points, 22 points communs entre les jeux quand même.
Je pense que ça se résumerait à ça, le plagiat. C'est quand vraiment tu reconnais le même jeu. Quoi.
Mais d'ailleurs, j'avais entendu parler d'une histoire de plagiat qui concerne deux gros blockbusters sortis sur une console Sony avec un 3, sur lesquels c'était allé très très loin. Et où légalement, pour dire que c'est du plagiat, il faut une combinaison, mais très très nombreuse et argumentée, d'une dizaine de points. C'est-à-dire que s'il y a juste 2-3 points de ressemblance sur un personnage ou quoi que ce soit, c'est pas considéré comme du plagiat. Par contre, si tu en as genre 20 spécifiques, etc., là, ok, là, il y a problème.
Et encore, souvent ça s'arrange en dehors de la cour.
Oui, bah, ça.
À coup de bon bah écoute tiens
Dominique,
tiens,
à coup de barre de fer,
à coup de non, à coup de fric évidemment. Alors les grands plagiats de l'histoire du jeu vidéo, eh ben on va commencer par un tout simple et je suis sûr que vous ne vous en doutiez pas au départ, c'est Pong. Pong est un plagiat.
On vient à l'origine.
Exactement. Parce qu'à la base, il faut savoir qu'il y avait un jeu de tennis sur la Magnavox Odyssey sorti en 1972, conçu par Ralph Baer. Un jeu de tennis qui était exactement comme Pong. Quasiment exactement comme Pong. Et
en que même du temps, coup, c'était tellement minimaliste que...
Bah, qui n'avait pas été commercialisé, du reste.
Ah, c'était en arcade.
Une exposition.
Voilà, bah, il y a eu une exposition, justement. Voilà. Ralph Baer, donc, qui est président d'Atari, a vu ça en 72. Il a fait « c'est pas mal, j'aime bien ton jeu ». Et à la fin des 72, eh ben, il y a Pong qui sort, qui devient le premier vrai grand succès commercial de l'histoire du jeu vidéo. Évidemment, il y a eu des procès. Il y a eu un arrangement en 76 entre la société de Nolan Bushnell et celle de Ralph Baer. Toi, tu l'avais vu ce truc-là à l'époque?
Non,
c'est quelque chose dont vous parliez.
J'ai vu le Pong arriver, ouais. Bon, comme tout le monde, mais la machine d'origine, non, je pense que c'était vraiment un peu confidentiel. C'était plutôt de la recherche. On était plutôt dans la recherche. On était encore très... Même le Pong, c'était encore très loin du jeu vidéo, quoi, quelque part.
Évidemment.
Mais c'était le début.
Ben voilà, et donc Pong, imaginez.
Donc la copie dès le début.
Exactement, dès le départ. Hein. Alors après, il y a eu d'autres exemples que je vais vous citer assez rapidement. Il y a Guitar Hero, par exemple, qui a repris tout Guitar Freaks dans la maniabilité. On est d'accord là-dessus, un jeu Benani de 98.
Pour autant, il a beaucoup apporté au genre et surtout à la démocratisation.
Il a démocratisé, voilà. Effectivement. Mais sinon, à la base, il copie intégralement Guitar Freaks.
Un concept, ouais.
Voilà.
Bah, en fait, tous ces jeux-là, c'est Konami qui les a plus ou moins inventés. Quoi. Bah, tous les jeux de musique.
Ouais. C'est bon. Il y a eu des clones de Dance Dance Revolution aussi, il me semble.
Oh, bah, énormément. Des clones de tout.
Exactement.
Mais on peut revenir assez loin. Bon, je t'interromps. Mais
ouais, vas-y.
Avec Rainbow Hearts, quand même.
Ah. Nos amis allemands
de Commodore 64 et de l'Amiga,
ouais.
Qui eux c'était des spécialistes de la copie. Ils ont commencé par Gretchen Sisters,
87,
qui est très connu,
effectivement.
Une copie vraiment intégrale de
Mario,
au tel point que Nintendo a fait la gueule et qu'ils l'ont retiré de la vente.
Ouais.
Mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont sorti Denaris sur Commodore 64 et Amiga aussi, qui était un pompage intégral de R-Type.
Exactement.
Et après, ils ont fait Turrican, qui était pas un pompage, mais un peu inspiré quand même de Metroid. Cela dit, il faut reconnaître une chose, on peut être copieur, être tricheur, donc, mais être très bon. Et ils étaient très bons.
Et faire mieux que l'original.
Oui.
Ça pouvait arriver pour Denaris.
Pour Denaris, c'était mieux que les adaptations sur les mêmes machines de R-Type. Il était nettement mieux fait. Il était très, très bon. Donc, comme quoi, on peut être copieur et avoir beaucoup de talent.
Ça, c'est un cas où, effectivement, c'était malheureux pour la personne qui copiait. Après, encore une fois, il y a eu des jeux qui ont bénéficié de la lumière en copiant. Ouais. Je vais continuer un petit peu ma petite liste. Il y a Angry Birds aujourd'hui. Alors Angry Birds, tout le monde dit oui, incroyable, génial, machin, mais à la base, il est joué, il est énormément joué. C'est en fait
Traz est un fan, il faut le savoir.
C'est un clone de Crush the Castle qui est sorti il y a quelques années, qui est lui-même un clone de Castle Clout. c'est pas nouveau. Et puis on peut citer aussi comme exemple les développeurs de Resident Evil qui ont toujours dit ne pas avoir connu Alone in the Dark. Ça fait quand même une sacrée coïncidence, hein, je trouve, pour Resident Evil. Mais ça, c'est des jeux par exemple qu'on réussi. Après, voilà, il y a des jeux qui n'ont pas réussi du tout à s'imposer. Alain vient de le dire, il y a Gretchen Sisters de Rainbow Hearts, mais il y a aussi les Simpsons Road Rage que Sega a attaqué en 2003 parce que c'était un plagiat complet de Crazy Taxi, jeu de 99 sorti en arcade et plus tard sur Dreamcast. On a eu droit aussi récemment à The Ville de Zynga qui, si vous le comparez à The Sims Social, qui lui aussi tourne sur Facebook en petite application, bah vous voyez que c'est le même jeu. Hein. Et donc tout ça, ça s'est réglé à l'amiable en février 2013, à coup de millions. Mais après, il y en a beaucoup d'autres de clones, évidemment, qui sont tombés dans l'oubli. Alors, je vais citer les jeux originaux, et puis, à mon avis, dans vos têtes, ça va faire tilt. Ah oui, c'est vrai, il y a eu plein de clones, j'en ai vu. les clones de Tetris, de Pac-Man, de Donkey Kong. Donkey Kong, sans Donkey Kong, il y a plein de jeux qui seraient jamais sortis. Il y a eu énormément de clones à l'époque. D'accord. Moi, je crois que mon premier jeu, d'ailleurs, un de mes premiers jeux en arcade, c'était Kangaroo. C'était exactement le même concept. C'était une maman kangourou qui allait chercher son bébé kangourou dans une cage en haut, quoi. Donc, c'était exactement la même chose. Fallait éviter des tas de pièges. Space Invaders, Dungeon Master, Asteroid, Arkanoid, Defender, GTA, le mode Defense of the Ancients, Dota. Bah voilà, ça a été cloné des milliers de fois. Il y a que League of Legends.
C'est devenu un genre.
C'est devenu un genre. Et maintenant, ils se tirent la bourre avec League of Legends. Et puis, on peut dire qu'il y a quand même un besoin de parasiter finalement les originaux dans l'intention de plagier. Et toi, Julien, par exemple, je sais que tu m'as dit, quand on a préparé ce podcast, que sur Facebook, t'as vu trucs incroyables, mais que Sange a copié jusqu'au logo, jusqu'à la jaquette.
Ah bah c'est ça. Bah alors bon, il y a un spécialiste de ce genre de choses quand même, c'est Gameloft. Hein,
on va y venir justement.
Bon alors on y reviendra après, mais c'est vrai que sur Facebook par exemple, vous regardez, parfois il y a des mini-jeux, et le dernier que j'ai vu en date, c'est vraiment ils ont repris la jaquette, la typo, etc. de Assassin's Creed 4 Black Flag, et donc t'as un pirate, mais qui ressemble un peu aussi à Jack Sparrow, histoire de tu fais ta tambouille. Hein. Et puis là t'as le titre, genre je sais pas, c'est pas Assassin's Creed Black Flag, ça doit être Pirates, ça doit être Assassin Pirates, machin. Il a la même, tu sais, la même pose avec l'épée, etc. C'est tout pareil, sauf que c'est fait en mode un peu comic book. Voilà. Et puis à l'intérieur, le jeu, je sais pas, j'ai même pas cliqué. C'est sûr, ça n'a rien à voir. Pour autant, sur un malentendu, quelqu'un qui a vaguement vu Assassin's Creed se dit oh, c'est peut-être l'adaptation sur Facebook, tu cliques et hop, c'est parti. Et moi, c'est vraiment ça, c'est se mettre dans le sillage pour essayer de récupérer un petit peu. Et honnêtement, pour certains, alors là, le cas précis que j'ai énoncé, je ne sais pas, mais pour certains, ça marche. Tu vois, on le disait avec Flappy Bird, depuis une semaine, franchement, jusqu'à la 15e place, c'était des App Store, c'était que des clones de Flappy Bird. Évidemment. Donc ils ont pris de la thune, mais vraiment, en ayant fait un jeu en 2 minutes 35, en se disant « Sera mal entendu, vite, c'est maintenant !»
Il y a un jeu que j'ai vu là sur Steam, je ne me souviens plus le nom, mais qui a l'air d'être une copie intégrale d'Uncharted. Enfin, en plus cheap, parce que tu ne fais pas du Uncharted non plus. Après, tu fais du Flappy Bird.
Oui, je te confirme.
Donc là, ça se voit quand même vraiment que ce n'est pas le même.
C'est certain, il y a aussi Temple Run qui est repompé 100 000 fois par tous les éditeurs sur Android et iOS. Vous voyez quel est le jeu Temple Run, où juste on voit quelqu'un de dos courir, on doit éviter des petits obstacles.
Un runner, donc.
Un petit runner. Alors celui-là, laisse tomber. Je crois que même Coca-Cola a fait un truc avec. Il me semble que c'est d'ailleurs du Uncharted.
Oui, mais alors c'est avec la licence officielle de Sony, c'est PlayStation, je sais plus quoi, Island, je crois.
Ouais, c'est ça.
Où ils ont repris, avec des concepts de jeu comme un Temple Run-like et compagnie.
Effectivement. Avant qu'on passe justement à cet éditeur dont on n'a pas cité le nom du tout, qui est un spécialiste de la chose, je voudrais qu'on parle aussi de ces développeurs qui s'autoclonent. Il y en a en fait en particulier, c'est Inafune avec Mighty No. 9. Comment peut-il faire aujourd'hui pour cloner son propre Megaman ?
Attends, je sais pas qui disait ça, je me demande si c'est pas toi, mais on a appris dernièrement quand même que le compositeur de certaines musiques de Resident Evil, d'Onimusha, etc., le Beethoven japonais, etc., en fait... c'était pas lui qui composait ses musiques. On va peut-être apprendre, c'est quelqu'un qui disait ça à la rédac, que c'est pas Inafune qui faisait les Megaman, les machins.
Il y a beaucoup de soupçons et beaucoup de confrères qui visiblement sont informés. Ils savent que Inafune n'a quasiment rien foutu.
Il était producteur
chez Capcom. Mais c'est lui qui prenait tous les lauriers.
Mais c'est souvent le cas, tu sais.
Il y a toujours une tête, une figure de pro, qui sert d'étendard comme ça, qu'on fait parler devant les, parce qu'il parle bien peut-être devant les caméras, etc., et qui en fait supervise la chose. Mais faut pas tout enlever à ces gens-là. Quand même, parce que ces gens-là en général ont une vision,
c'est
la vision qui fait que les jeux vont dans une direction.
Mais il arrive à se cloner.
Même s'ils n'ont pas les mains dans le cambouis.
il se dit surtout maintenant je suis parti de chez Capcom, il y a un beau hype autour des Megaman. Allez, et a raison, puisque quand tu vois le succès de son Kickstarter sur Mighty 99, vas-y mec, fais-toi plaisir.
Et puis en même temps,
en espérant que ce soit bon.
Il n'a pas fait que ça depuis qu'il est parti de chez Capcom.
Non, il a fait Sacrifice, évidemment. Tiens, un petit détour avant de passer justement à Gameloft par le hashtag podcastgameblog sur Twitter, puisque évidemment j'ai pu avoir des réponses quand j'ai demandé quels sont les plagiats les plus honteux ou les plus heureux que vous connaissiez dans le jeu vidéo. Eh ben, y a Jérémy et Damirez qui m'ont immédiatement sorti comme réponse pour les plagiats les plus honteux. Impossible de ne pas citer Gameloft qui a copié de nombreuses licences connues de manière flagrante ou encore un grand prix du jury pour Gameloft et l'ensemble de son œuvre. Donc on va parler évidemment du cas Gameloft, même si il y a un autre cas particulier dont j'aimerais parler très vite. C'est Limbo of the Lost qu'on m'a beaucoup cité, un jeu qui est sorti, un jeu PC qui est sorti en 2007, qui lui en fait ne copiait pas un jeu en particulier. En fait, il reprenait carrément à l'identique des éléments de décor de jeux comme The Elder Scrolls 4, Oblivion, World of Warcraft, Civ 3, mais à l'identique. Et du coup, son éditeur à l'époque a fait oula, qu'est-ce que c'est que ce délire, je le retire maintenant, on savait pas, le développeur nous a floué. Et ça, c'était un cas assez spécial. En fait, il y avait 12 jeux ou films recensés.
Copiés à l'intérieur.
Copiés, intégral.
C'est bien.
Pour un ça économise du temps de développement.
Ah, exactement. C'était un jeu qui avait été annoncé, je crois, dans les années 90 et qui était sorti donc, ouais, en 2007. Vous pourrez aller voir directement.
Annoncé dans les années 90, ouais. Sorti en 2007.
Exactement.
Copier comme ça, voilà. Ils sont très 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 lents.
Le
mec est tout seul. Tu dis les mecs, mais il est tout seul, c'est pas possible.
Bah je sais pas. Visiblement.
Il a galéré.
Visiblement, ils ont beaucoup galéré avant de le sortir. Allez, on va passer à Gameloft, le cas Gameloft. Alors messieurs, je vais vous faire encore une fois une liste de tous les jeux qu'ils ont copiés et bah après vous réagirez parce que ça fait quand même un petit paquet. Il y a des titres donc de la part de Gameloft qui sont comme Nova qui reprend Halo, Modern Combat. Call of Duty. Vous voyez que les noms, des fois, se ressemblent un petit peu aussi. Hein. Ils sont un peu fouillés.
Pour être un bon plagiat, il faut aussi
évidemment, il faut
faire comprendre avec le titre ou les visuels, comme le truc assassin dont tu parlais, que ça rappelle quelque chose au joueur.
Eh bien, Order and Chaos Online, qui ressemble un peu à World of Warcraft. Gangstar, Miami Vindication, vous me dites.
Miami Vice.
Et, non, pas Miami Vice.
GTA.
Ouais. Voilà, parce que Miami, c'est la série, t'inquiète. Voilà. C'est pas grave. Hero of Sparta. Si je vous dis Hero of Sparta, vous pensez à quel jeu ?
Je pense à 300 tout de suite.
Ouais, moi je pense
Hero
à 300.
Hero of Sparta, c'est quoi ?
Ah non, mais si, c'est Ghost of Sparta, c'est God of War.
Exactement,
ah,
parce que c'est quand même le surnom de Kratos dans God of War.
Ah, ouais.
Shadow Guardian, bon là c'est plus difficile, c'est Uncharted. Backstab. Si je vous dis Backstab, vous pensez à quelle licence super connue ?
Bah Backstage, Assassin's Creed. Assassin's Creed,
ouais. Effectivement, Assassin's Creed, Julo, bonne réponse. J'aurais dû faire le quiz là-dessus. Hein.
Putain, j'en aurais gagné un de plus.
Il y a Sacred Odyssey, Rise of Aiden, qui lui est un total pompage de Zelda avec le même l'arbre, l'arbre mojo.
Mais souvent, effectivement, ça se reconnaît au-delà même des noms avec les visuels. Hein. Les visuels,
oui. Si t'as pas le nom, t'as le visuel.
Ouais, évidemment.
Et genre, en général,
vérifiez. Vérifiez, n'hésitez pas à taper ces noms dans Google, vous verrez, c'est vraiment flagrant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Soul of Darkness qui est un peu un Castlevania. Eternal Legacy. Si je vous dis Eternal Legacy, et là, vous me dites. Ça fait un peu antonyme, hein, là, pour le coup, mais...
Legacy of Kain...
Non, c'est Final
Fantasy.
Voilà, d'accord. Exactement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun éditeur qui n'a jamais emmerdé...
Attends, mais t'en oublies un, c'est le jeu de moto, là. Aussi.
Le jeu de moto.
Ouais.
Le jeu de moto.
Comment Trials et il copie Trials, c'est avec un...
Bike Baron,
merci.
Bike Baron.
Bike Baron, qui est une repompe de Trials, mais avec quelque chose avec
cartoon, etc.
Un peu plus, tu changes un peu des trucs quand même.
Parce que, dans ce cas-là, il y en a un autre, c'est Joe Danger.
Joe Danger aussi.
Non, lui se rapproche presque plus de.
Bike Baron.
Bike Baron.
Celui-là. D'accord. Celui-là même, là.
Bike Baron. Et le crime paye ou pas ? Ils en vendent ?
Oui. Bike Baron, ça a cartonné. Gameloft, c'est un des meilleurs.
Gameloft, en ce moment, ça commence à baisser un peu. Hein.
Mais à quoi c'est dû le fait qu'aucun éditeur les ait jamais emmerdés ? Est-ce que c'est parce que c'est un frère Guillemot qui est à la tête de l'entreprise ?
Non, parce que déjà, ça change un peu.
Est-ce qu'on se dit, oh là, non, c'est le copain. Non,
mais
c'est...
comme tu disais, avec l'exemple Bike Baron, là, c'est que quand même, ils changent des trucs. Donc, ça ressemble pas à un plagiat total. Et d'autre part, il faut quand même rendre à César, ils font les trucs plutôt bien la plupart du temps.
C'est vrai.
Bike Baron, c'est un jeu super sympa à jouer, par exemple.
Nova est pas dégueulasse.
Et moi, quand je l'ai acheté sur l'App Store, c'est parce que j'étais en train de jouer à Trials et que j'avais envie d'avoir un jeu à peu près similaire sur mon iPhone pour jouer dans le métro. Mm. Et ça m'a donné ce que je réclamais, une copie plutôt bien faite avec quelques originalités. Voilà. Mm.
Mais c'est des opportunistes plutôt qui font les choses plutôt bien.
Voilà, c'est ça.
Vraiment, j'en reviens à mon truc. Hein, c'est, ils se mettent dans le sillage, ils te mettent dans l'esprit que oh, ça ressemble, etc. Derrière, il y a des jeux. Après, c'est pas des grands jeux, mais c'est
non,
pas
c'est
plus.
Jamais des grands jeux.
C'est pas des katas. En tout cas, c'est pour, pour ce genre de plateforme-là.
En tout cas, voilà, pour les téléphones, parce qu'ils ont commencé très tôt hein, sur les téléphones aussi. Mais c'est aussi peut-être parce que les éditeurs en question s'y intéressent pas à ces plateformes. Vous voyez, il y a pas de Zelda sur iPad, iPhone. Il y a pas de vrai Zelda. Il y a pas d'Uncharted. Il y a pas de Call of Duty.
Bah, tu sais, voilà. En parlant de Zelda, il y a un jeu sur tablette et smartphone, je ne me rappelle plus le nom, mais qui est un. Mais c'est tellement évident que c'est repompé, enfin en tout cas l'esprit de Zelda Wind Waker, avec à la musique quand même Nobuo Uematsu, etc. Donc tu vois, ils ont réussi à avoir des beaux noms du jeu vidéo, mais c'est un petit gars sur son bateau, dans la mer, et puis il y a les petites îles, et puis il doit rentrer dans les temples, et puis ses jauges de vie, c'est des petits cœurs, et puis voilà, bon, d'accord. Ok, t'as compris. Mais le jeu est cool, est vraiment cool. C'est effectivement, t'as raison, il n'y en a pas sur ces plateformes-là, et il y en a qui font des choses bien.
Bah ouais, tant qu'à faire, autant en profiter aussi. Hein. On y reviendra tout à l'heure, ouais, c'est pas forcément un mal. Maintenant qu'on a parlé
le PSG, c'est de plagier l'histoire de l'OM en gagnant des trucs.
Avec le fond,
on peut dire que c'est un plagiat.
Non,
oh là là, mais c'est pas possible. Tu penses qu'au foot tout le temps.
En fait, moi, je trouve que c'est vraiment assez paradoxal que les indépendants, à la fois cette arrivée vraiment des indépendants, fait qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'originalité. Ouais. Et en même temps, d'un autre côté, il y a énormément de repompes.
Exactement, ouais.
Parce que vraiment, par exemple, je sais pas, j'adore Alien Breed, on en a parlé déjà. Alien Breed qui était super, Team 17 en a fait 3. Bon, ça, c'est eux qui ont le truc depuis longtemps. Je ne sais pas combien il y a d'Alien Breed qui existent.
Ouais, après Alien Breed, quand il est sorti sur Amiga au début des années 90, il était déjà, il ressemblait déjà à beaucoup d'autres, à quelques jeux qui étaient vus du dessus. Même
oui,
un Gauntlet, tu vois.
Gauntlet,
voilà, par exemple, un Gauntlet.
Enfin, il y avait le côté Alien. Enfin, bref, de toute façon, moi, je trouve ça vraiment paradoxal qu'il y a à la fois énormément de créativité et de la copie à l'état pur.
Ouais, après, est-ce qu'il y a de. Est-ce que tous les
c'est
jeux.
C'est la loi de la vie, c'est le yin et le yang, il y a toujours un revers à la médaille. Voilà.
Alors maintenant qu'on a parlé de Game Loft, on va parler un peu d'autre chose que le gameplay ou des éléments visuels des jeux, parce que les musiques aussi, il y a eu des petits accros.
Il y a des cas formidables.
Ouais, il y a des cas assez formidables, comme tu dis, Julien. On va commencer par peut-être le plus formidable. Julien, je crois que tu connais l'anecdote par cœur. Ça concerne Metal Gear Solid. Eh bien, Tapi Iwase, qui a composé la musique pour Metal Gear Solid 1 et Solid
2. Le thème que tout le monde connaît quand on connaît Metal Gear.
Et qui, bizarrement, a complètement disparu de la série depuis Metal Gear Solid 3.
Le 2 est le dernier dans lequel on l'a.
C'est ça, à partir du 3.
Mais pourquoi ce thème a disparu, Julien?
Alors, je vous invite. Alors, sur Gameblog, je crois qu'on avait fait une news où on l'avait mis dans les anecdotes sur notre dossier Metal Gear.
Avec une vidéo géniale.
C'est incroyable. Alors, c'est un E3, etc. Bon, il y a un gars qui est là. Et
c'est un journaliste russe, parce que c'est un compositeur russe. À la
exactement.
Oui, et donc, exactement. Je vais le dire.
Alors là, si vous me faites tous les trucs avant que je. Là, je suis en train de construire l'histoire. Alors, attendez deux secondes. On n'y est pas encore.
On
n'y est pas encore.
On va faire monter la sauce.
Donc, on est. Tu sais, je
me dis quand il faut que je dise
exactement. Oui, parce que je m'en rappelle plus. Donc on est dans une pièce de 3, c'est une interview, etc. Il y a Kojima qui est là. Bon, c'est le début vraiment où Metal Gear est en train d'exploser internationalement, d'avoir une énorme renommée. Bon, machin. Le thème est connu par tout le monde. Et puis le gars, il arrive avec sa PSP, il lui fait « Bonjour, je voudrais juste vous faire écouter un petit truc, est-ce que vous connaissez ?» Alors là, et là, il met la musique. Et donc il y a la vidéo, hein, c'est sur YouTube et tout. Et on voit Kojima, et donc la musique part. D'un compositeur russe qui s'appelle
Georgi Zviridov.
Voilà. Dont la musique s'appelle
Metal.
Et le truc, ça fait
Metal Gear.
Na, avec un orchestre symphonique et que ça. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est de voir la tête de Kojima, tu sais, qui est petit sourire, genre.
mais en même temps, il se décompose.
Exactement.
Quand même.
Et faire. Il est connu en Russie. Oui, assez, très bien. Et puis après, il lui file le CD, tu sais, il le tourne dans tous les sens, puis il le montre à ses. Genre, t'as vu, c'est bien. Hein, ouais, c'est marrant. Bon, clairement, on va dire que s'il ne connaissait pas ce morceau ou ce thème, c'est un hasard magnifique. Mais alors, metal, le thème, c'est le thème. Bon, effectivement, suite à cela.
On
n'a
jamais entendu parler de Tapi Iwase.
Le thème de machin.
Et pourtant,
de Metal
ce
Gear.
Thème, il défonce tellement.
Eh bah ouais,
quel dommage.
Voilà. Mais, c'est ça. Ouais, bah, mais dans ce genre de cas, moi, quand même, mine de rien, je ne sais jamais, enfin, on ne peut pas savoir, parce que bon, la musique, tu sais, c'est une succession de notes. Est-ce que les gars. Est-ce que vraiment c'est du plagiat ou est-ce que c'est une espèce de hasard?
C'est ton oreille qui décide, parce que dans le cas du truc de Metal Gear, c'est quand même vraiment, mais c'est les mêmes notes au même moment, dans le même ordre et tout, quoi.
On a beaucoup accusé Led Zeppelin, par exemple, de plagier des artistes inconnus, de reprendre justement leur son. Michael Jackson a eu les mêmes problèmes, d'ailleurs, dans sa carrière. J'ai un souvenir de je sais plus quel chant de Earth Song, je crois, qui revenait. Enfin, on nous avait fait écouter un truc à part d'un compositeur géorgien.
Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, Alain Huyglacourt avec les vipères aussi. Des plagiats, plus savoir qu'en faire, quoi.
Oui,
bon,
oui,
hein.
Je sais pas. George Harrison, quand même.
George Harrison aussi.
Son plus gros tube.
I Got My Mind Set On You, c'est ça?
Non, non, c'était pas I Got My. C'était My Sweet Lord qui a été son plus gros tube. Et il a perdu le procès. Effectivement, c'était un groupe de soul américain qui avait fait un morceau pratiquement pareil, quoi.
Ouais. Ouais, il a perdu le procès.
Enfin, ça arrive. Et c'est pas toujours fait exprès. C'est vrai que quelquefois, t'entends une mélodie
et tu peux la reproduire.
Une fois, tu t'en souviens pas, et puis tu composes un truc 2 ans après, puis tac, tu redémarres dessus et tu sais pas. Dans la musique, ça peut être vraiment un accident. Dans le jeu vidéo, j'ai plus de doutes.
Justement, est-ce qu'on peut parler d'accident pour des exemples comme Doom, qui a repris du AC/DC, du Pantera ou du Metallica de façon flagrante, Street of Rage, qui a repris, enfin, ou qui a remixé un peu, on va dire, du Black Box ou du Snap, les trucs qui marchaient à fond.
Dans ce cas-là, est-ce qu'ils disent c'est genre un hommage
Ils n'ont rien dit.
C'est pas un hommage, alors. Ouais. C'est un dommage.
Et le robot stem de Chrono Trigger, qui quand même, quand on le cale sur Never Gonna Give You Up, Laurie Castley, c'est la même chose.
C'est pas possible. Là, enfin, je suis désolé. J'adore Mitsuda. Vraiment, je suis fan. J'ai ses albums. Il est un compositeur de talent, etc. Mais là, c'est pas possible. C'est-à-dire que le phrasé est trop long et trop... mais totalement le même. Vous savez, le Rickrolling et machin, si vous tapez RoboSem de Chrono Trigger et Rickroll, de toute manière, maintenant, il n'y a plus que ça. En fait, on n'arrive même plus à entendre l'original tellement les deux ont été comparés. C'est pareil. C'est pareil. Donc là, forcément, bon.
Ah oui, non, mais c'est sûr que la longueur des notes, etc., ça fait...
Là, c'est même pas plus vite, moins vite, machin. C'est...
Effectivement, ça c'était pour la partie musique, mais on va passer un peu à la partie hardware aussi, parce que
Et j'en ai trouvé un autre, mais alors là, je pense que c'est un petit hommage. Non, mais là c'est clairement un hommage,
ouais.
Mais ce week-end, justement, on prépare un peu ce truc là
dans
les musiques de Wild Arms. Bon, après, voilà, l'ambiance elle est très Far West, etc. Dans le thème principal de la carte,
je
crois.
Est-ce que je peux siffler pendant que tu parles? Est-ce que je peux siffler le thème de Wild Arms?
Voilà. Oui, mais je vais te couvrir. Mais alors, c'est pas ce thème-là, en l'occurrence. Mais c'est un thème que c'est vraiment le début du thème de Il était une fois dans l'Ouest de Ennio Morricone, mais mis en genre 2,5 fois plus vite. Mais vraiment, c'est les premières notes. Alors, ça dure pas longtemps, et c'est pour ça que, à mon sens, c'est de l'hommage. Hein. Mais je suis allé regarder parce que j'ai l'album. J'ai regardé dans le petit leaflet, là, si je voyais une mention de reprise de machin, hommage, ou je sais pas quoi. Il y a que dalle. Mais bon, c'est amusant.
Tu vas parler au compositeur, il te dira oui, Ennio Morricone, il n'y a pas de doute, c'est mon maître. Voilà.
C'est ça.
Mais je pense que beaucoup, ils sont nombreux à avoir copié Ennio Morricone. Ouais.
Et dans cette pièce, il y en a un qui l'a côtoyé.
C'est vrai?
C'est vrai.
Ouais.
Pardon? Excuse-moi, là, quoi? T'as côtoyé?
J'ai eu la chance de le rencontrer. Et d'aller dans son studio à Rome, voilà.
Ouais, oh là 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 là. Mais des gens tueraient pour ça.
Mais toutes les anecdotes dans le bouquin de Rachel.
Ouais. C'est vrai.
Tout est allez, on le vend.
Mais oui. Il est juste derrière toi.
Donc après la musique, il y a aussi le hardware. Alors c'est le hardware. On peut résumer aussi qu'au début du jeu vidéo, il y a eu énormément de consoles qui abritaient des Pong et d'autres styles de jeux. Il y a eu des déclinaisons multiples de ces consoles qui avaient aussi la plupart toutes le même contrôleur, une petite molette qu'il fallait tourner là comme ça pour déplacer les barres dans ces jeux. Il y a aussi les fausses consoles Tetris qui se faisaient passer pour des Game Boy. Il y a des clones de vieilles consoles, mais des clones visuels uniquement. Je peux vous citer par exemple la Sega Zone, mais c'est pas visuel pour la Sega Zone, c'est sorti récemment, ça prend des jeux Mega Drive. Il y a plusieurs jeux Mega Drive qui apparaissent dessus, il y en a une vingtaine je crois. Il y a la Atari Flashback aussi.
Quasiment, enfin là c'est presque du piratage en fait.
Non, en fait c'est sous licence.
Ah bon?
Oui, il y a des trucs sous licence. Comme la Sega Zone est sous licence, l'Atari Flashback a été sous licence aussi, qui permettait de rejouer à des vieux jeux Atari.
Alors, franchement, des consoles clonées avec des noms, la Playbox et
alors justement,
et
nous avons la Polystation, qui n'était pas une clone. Enfin, c'était un clone visuel de la PlayStation. Elle ressemblait physiquement à la PlayStation, mais c'était des jeunesses qu'on faisait.
C'était un lecteur de VHS.
non, c'était des jeunesses. Il y avait aussi la Retro Duo qui faisait tourner les jeunesses et qui ressemblait encore une fois fois à une PlayStation, si je ne m'abuse. La Chine, donc, assure pas mal hein, de ce côté-là ces dernières années. Surtout, c'est la Wii qui a connu un nombre de clones, mais phénoménal, avec des jeux embarqués qui n'ont souvent aucun rapport, mais qui nécessitent à chaque fois une Wiimote pour jouer. Donc, je vous cite la Wii. Avec un V. La Wii, WWI, la eSport, la MyGame, la Zone 40, tout ça, c'est des clones de Wii.
La Zone 40.
Avec 4 ou 5 jeux embarqués qui ressemblent effectivement au tennis, au golf de la Wii, mais des trucs.
Mais qui sont tout pourris.
Ouais. Voilà, c'est tout pourri. Et effectivement, imagine, tu vas en Chine, tu fais hé, hey, dis donc, regarde, j'ai trouvé une Wii à $40. Oh là là, je vais la prendre, puis tu repars chez toi avec ta Wii.
Mais tu sais que je. mais je me demande dans quelle mesure ces mecs-là font presque autant de ventes ou plus avec des gens comme nous qui se marrons, qui sont pas du truc et qui disent pour la collection
il faut absolument que je ramène ça
quoi. Ah ouais, puis même, parce que franchement, même les gens qui sont dupes en Chine tu vois qui savent pas qui sont pas renseignés ou quoi que ce soit ça peut arriver
Surtout que la plupart des consoles ne sont pas commercialisées en Chine
exactement
interdites
donc c'est une raison de plus pour que ça fonctionne là-bas.
Mais je voudrais dire au niveau du hard ça existe depuis tout longtemps depuis quasiment le début. Il y a quand même un phénomène que je trouvais vraiment intéressant c'est la croix directionnelle. Faut pas oublier que la croix directionnelle a été inventée par Nintendo.
Enfin, elle est brevetée par Nintendo. Ils l'ont pas inventée vraiment. Ils ont inventé cette forme de croix directionnelle, mais ils ont breveté cette croix-là pour que
Pourquoi tu dis qu'ils l'ont pas inventée?
Je crois qu'il y a d'autres manettes avant qui avaient une petite croix.
À ma connaissance,
non.
Ça a été créé. C'est Gunpei Yokoi qui l'a inventé pour les.
Mais celle-là en particulier, celle à 4.
Non. Le concept même de la croix de direction, il n'y avait pas.
J'ai pas les mêmes infos.
Et par contre,
que d'autres croix existaient, mais que celle-ci, cette croix-là. Parce qu'avant, il y avait des périphériques, effectivement, genre celui de la Master System qui ressemble beaucoup.
Ah, mais la Master System, c'est après.
Mais c'est venu après.
Ouais, mais c'est qu'il y avait d'autres manettes qui reprenaient quasiment la même façon, en fait, le même carré.
Mais les manettes qu'il y a eu par la suite jusqu'à aujourd'hui et encore aujourd'hui reprennent la croix directionnelle. Alors, elle peut être légèrement différente, mais c'est quand même le même concept.
Mais c'est justement ça qui fait la différence de ces croix directionnelles et qui fait que souvent elles sont moins bonnes que la croix originale de Nintendo et qu'on a moins la sensation etc. Alors il y en a qui le mettent sur des disques et donc le truc il penche machin. Exactement. D'autres ils séparent les différentes zones. Ils doivent se casser la tête pour s'ils ne veulent pas payer des royalties à Nintendo à trouver des éléments différenciants.
Ah ouais, c'est à chaque fois comme ça, mais il y avait un autre concept qui avait été breveté à la fin des années 90, c'est celui de la croix directionnelle sur le flingue Dreamcast qui avait été copié.
En même temps, tout le monde s'en foutait, personne ne l'a appris.
Ouais, mais effectivement, mais ça a quand même été...
C'était une super idée pour les...
C'était une super idée, c'est un Français qui l'avait breveté.
Je me rappelle, il avait fait une interview dans le Joypad et tout.
Exactement, il l'avait proposé à Sega. Il avait dit regardez moi j'ai breveté ça les mecs et puis ce gars avait fait ah ouais c'est intéressant et tout c'est plutôt cool une petite croix directionnelle sur un flingue fallait y penser et puis 4 mois plus tard Sega qui annonce le flingue Dreamcast avec la croix dessus, le pauvre vieux s'était retrouvé mais pourquoi vous m'avez refusé alors que finalement je sais pas comment ça s'est fini d'ailleurs ça s'est fini par
ça a été la croix et la bannière.
Oh ouais. Pas mal hein. T'as le droit d'utiliser Banner
Merde, je suis désolé. La croix et la Banner, ça gars. Ah merde, non.
Bon, on arrive un peu sur la fin de ce podcast. Je vais vous poser quelques questions par rapport à tout ce qu'on a vu. Hein, tout ce qu'on a survolé depuis le début de ce podcast. Pour vous, t'as le droit d'utiliser
Flappy.
C'est pour vous, quelle est la frontière entre inspiration et clonage éhonté? Vraiment. Alain.
Oui, il y a beaucoup d'inspiration. Par exemple, faut pas oublier que Call of Duty, c'est quand même plus ou moins, pour moi, un clonage de Medal of Honor. En fait, ils voulaient prendre le plan, ils voulaient prendre la place, ce qu'ils ont réussi à
faire. C'est les anciens de Medal of Honor qui ont fait Call of Duty, qui aujourd'hui font Titanfall.
D'accord. Mais bon, au départ, c'était vraiment... Bon, moi, ce que j'ai trouvé vraiment le plus séduisant ces dernières années, ça a été en fait, je suis un fan de Tomb Raider, quand j'ai vu arriver Uncharted, je me suis dit, oh là là, ils sont vraiment inspirés. Puis en même temps, c'était super Uncharted, c'était super. Et je me suis éclaté l'année dernière à voir que on faisait dans l'autre sens. Là, c'est vraiment le comble du truc. C'est Tomb Raider qui s'inspire à ce moment-là de celui qui s'est inspiré de lui. Et quelque part, dans ce cas-là, je trouve qu'il y a vraiment une morale parce que les deux séries sont super et les deux jeux sont super. Donc, c'est de la copie positive.
D'accord.
D'ailleurs, bah, petite anecdote, je vous vous rappelez que la première fois que Uncharted a été dévoilé, il a été dévoilé sans son nom. Il n'avait pas de nom, il avait juste marqué Naughty Dog. C'est parce que Phil Harrison ne voulait pas que le jeu s'appelle Uncharted. Et donc, au dernier moment, il avait dit non, vous ne mettez pas le titre, on trouvera autre chose, etc. Et du coup, le nom qui a été donné au jeu par les fans, par la communauté qui a découvert ce trailer, etc., c'était Dude Raider.
Ah oui,
voilà. Okay. Par la similitude
ça ressemblait
du jeu avec
que...
Tomb Raider, Dude Raider.
Mais moi je pense que ce qui est choquant, c'est quand il y a des éléments distinctifs qui sont clairement repris, pas sous le côté hommage sympathique, mais sous le côté on veut se l'approprier. Là c'est choquant. Pour autant, l'inspiration, je pense qu'elle est, elle est bonne, elle est saine. C'est la concurrence, quoi. On essaie de prendre les meilleurs éléments, de les pousser plus loin. En tout cas, pour les quand c'est bien. Il y en a qui n'y arrivent pas, mais quand c'est bien, etc. Et ça crée quelque chose qui se nourrit et qui peut permettre de grossir. Après, il y a toujours des choses originales.
Ouais. Mais
l'inspiration, c'est pas
moment,
la copie.
À quel moment on n'est plus dans le truc like et on est dans le clonage justement?
Bah quand ça devient mécanique, quand le truc il est vraiment genre ultra évident.
Parce que par exemple, on disait tout à l'heure, Donkey Kong a inspiré beaucoup de jeux, Mario a inspiré beaucoup de jeux, Wolfenstein 3D, c'est le premier FPS, et finalement...
Alors, je vais te donner un exemple tout bête. Est-ce que Crash Team Racing, c'est un plagiat de Mario Kart?
Dans l'ensemble, on peut le dire.
Bah oui, pour autant, c'est un super jeu. Et bah, qui a lui apporté aussi ses spécificités, etc. Bon jeu. Pour autant, l'idée globale, c'est-à-dire on prend des personnages d'une série phare d'un jeu de plateforme et on les fout sur des cartes,
c'est
quand même vraiment la même chose. Quoi.
Ouais, bien sûr.
Mais là, je trouve que c'est pas grave. Bah, quand c'est bien fait, quand c'est bien fait, c'est pas si grave.
Et puis soyons clairs, c'est pas un problème spécifique aux jeux vidéo. Quand tu regardes les films, globalement, il y a toute une série de blockbusters américains qui sont vraiment pas très différents les uns des autres.
Hein. Ouais, absolument.
En bouquins aussi, enfin dans plein de domaines. Parce que finalement, même dans le jeu vidéo, revenons au jeu vidéo, si on devait avoir que des créations originales, on n'aurait pas beaucoup de jeux.
Ah bah c'est même... franchement. C'est impossible. Effectivement. Mais justement...
pour autant, c'est mieux quand même. Vaut mieux qu'il y ait des choses originales, etc.
Oui, absolument. Mais il faut des pionniers. S'il n'y avait que ça, il ne sortirait pas beaucoup de jeux.
Moi, je pense que les plagiats, enfin, les trucs vraiment honteux, cracra, vraiment minables, etc., de toute manière, disparaissent. Enfin, je n'ai pas souvenir d'un plagiat éhonté qui a connu un énorme succès et qui n'a rien inventé, qui n'a pas apporté sa patte à un moment ou à un autre. C'est des épiphénomènes dont on parle parce qu'on fait oh putain, c'est chaud quand même, machin, et puis ça disparaît, c'est balayé quoi. Seul reste ceux qui ont soit se sont super bien inspirés pour faire avancer les choses, soit ont vraiment leur personnalité.
Justement, c'est ce que je voulais vous demander, c'est parce que est-ce qu'on n'est pas un peu obligé, de toute façon, dans ce média qui a du mal à évoluer, parce que les idées, ça n'arrive pas non plus comme ça du jour au lendemain, qu'on n'est pas obligé de regarder, de prendre un jeu pionnier pour faire progresser le média, et du coup, est-ce que les joueurs et les joueuses ne sont pas bénéficiaires dans l'affaire? Est-ce que ce n'est pas un truc qui est presque obligatoire?
Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit obligé, et j'espère pas. Et puis, il y a plein de cas de genres, de jeux qui n'ont rien à voir les uns les autres. Et tant mieux. Mais je pense qu'il faut juste pas condamner, pointer du doigt, machin, quand c'est de l'inspiration, quand il y a des choses, des éléments. Le plagiat, c'est pas bon. Enfin. Mais parce qu'il n'y a pas de qualité en fait.
Ouais.
On en revient toujours là, c'est la qualité qui fait la différence.
Mais après, il y a les évolutions, hein, comme je disais. Tu vois, par exemple, les combats dans les Prince of Persia à partir de Sands of Time, qui sont réaménagés pour Batman Arkham. Le monde ouvert, GTA 3, presque. Enfin, il a démocratisé le monde ouvert. Après, c'est pas le premier jeu en monde ouvert, un gros jeu en monde ouvert en 3D.
A beaucoup aidé. Si c'était pas GTA 3 qu'il avait fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. C'était dans l'ère du temps du développement des jeux des univers.
Qui était par quasiment les mêmes développeurs, qui est sorti en 98 sur Nintendo 64. À l'époque, c'était DMA Design. C'était exactement du GTA 3, mais il a pas eu le même succès.
Mais tu vois, je trouve que c'est exactement la même chose que sur les smartphones, par exemple, dans la lutte Apple-Samsung là entre les brevets, les machins, etc. Je trouve que le gameplay, je trouve ça presque même, ce serait indécent de le déposer quoi. Tout comme je trouverais indécent que Apple dise, y a que nous qui avons le droit de swapper sur des surfaces tactiles quoi. Par contre, le visuel, c'est autre chose. C'est-à-dire que si tu reprends un personnage rondouillard avec une salopette, une moustache, mais que ça n'a rien à voir avec Mario
comme
et machin.
Le gars pour un jeu sur
ça,
iPhone qui a voulu sortir l'année dernière, mais il s'est fait repris de voler immédiatement. Mm. Non, je ne me rappelle plus le nom, ça y est. Du coup, j'ai oublié le nom.
C'est le visuel, tu vois, où là, tu essaies de t'approprier l'existence de quelqu'un, etc. Alors, par contre, le style, la démarche et machin, c'est comme tout dans la vie. Il y a des leaders, tu les entends, je ne sais pas, il y a eu dans l'histoire de l'humanité des grands orateurs. Il y a des gens qui se sont inspirés de leur manière de parler, de se mouvoir, d'haranguer les foules, etc.
C'est comme Julo et moi, on s'est inspiré pour les lunettes.
C'est
en fait,
ça, hein. Voilà.
Tu vois, c'est dit, oh, bah, tiens,
bah, très bien.
C'était,
c'est positif, ça fait avancer les choses. Mais une fois de plus, c'est toujours pareil, c'est la qualité. Quoi. Ouais. Si c'est juste bête, non.
Alors. Et je voudrais parler aussi de. Parce que finalement, on parle de plagiat ou d'inspiration, plus ou moins. Mm. Mais finalement, il y a l'auto-inspiration. C'est-à-dire combien il y a d'éditeurs qui font des séries et finalement, un épisode qui est presque le même que le précédent.
Hein, le, franchement, ça existe. L'autoplagiat.
Bah, c'est l'autoplagiat, quoi.
Évidemment, les Zelda et les Mario sont
t'as
la même chose.
Le même gameplay, t'as le même machin, et on te varie 3-4 éléments, 3-4 décors, etc. Et globalement, quelquefois, c'est fait avec beaucoup de talent, quelquefois, ça apporte vraiment pas grand-chose.
On va évidemment pas présager de l'avenir, et c'est pas du tout pour lui taper dessus, mais c'est vrai que quand on a vu Watch Dogs, beaucoup de personnes qui ont pensé à Assassin's Creed, mais transposé dans le futur, ou dans un
il y avait même
quoi.
Des théories qui disaient voilà. Oui, ils vont finir par le dire, c'est Assassin's Creed dans les temps modernes. Et ça.
Donc ça, c'est évidemment pas du plagiat ou quoi que ce soit, mais c'est une continuité d'état d'esprit qui fait que on arrive à des choses qui
c'est
se ressemblent.
C'est comme on dit, Red Dead Redemption, c'est GTA dans le Far West. Quoi.
Voilà. Oui.
C'est
aussi. Voilà. Effectivement, le meilleur exemple de ça, ça reste quand même Nintendo. Quoi. Nintendo, d'un Zelda à l'autre, d'un Mario à l'autre, etc.
Ah bah ils refont le jeu à chaque fois, mais on est content.
Oui. J'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, Metal Gear, c'est quasiment la même structure systématiquement.
Mais d'ailleurs, l'objet de Metal Gear Solid 2, c'est vrai que tu avais une mise en abîme géniale, c'est qu'ils avaient joué là-dessus, justement, sur la reprise du premier épisode.
On spoil ou pas Metal Gear Solid 2 vite fait? Non, ça te dit pas?
Attention, on spoil l'alerte.
Non, je plaisante.
Si vous n'avez toujours pas joué à Metal Gear Solid 2.
Bon, eh ben écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de la question du plagiat, du vol et de la contrefaçon. Et rien que pour ça. Je vous dis que vous méritez de participer au quiz du jour.
Ouais.
Un quiz spécial voleur.
Ah.
Et oui, il n'y a que des voleurs et des fils de pute dans ce quiz. Question.
Pour ceux qui connaissent pas la référence, quand même, c'est le grand détournement.
C'est le grand détournement, la classe américaine.
Soudainement, tu n'es pas devenu fou.
C'est Orson Welles, évidemment, qui accuse de plagiat les auteurs. Je rappelle très vite un petit récap, tiens, des participations et des victoires. Pour l'instant, Julien, tu as gagné 9 sessions. Julo, tu en es à 6. Tiger est à 2. Mimi, quand elle a gagné la dernière avec les premiums.
Avec 12 membres premium.
Un scandale. Voilà. Un scandale.
Et Bereb, Kayane, Damien Menuet et Nico aussi en ont gagné. Messieurs, peut-être la 10e pour Julien. Mmh. Peut-être la première pour Alain. Peut-être la 7e pour Julo. C'est parti.
Le suspense
est total.
Question numéro 1.
Vous aussi jouez chez vous.
Dans la série Thief, connue jusqu'ici chez nous sous le nom de Dark Project, quel est le prénom du héros?
Julo. Oui. Garrett.
Exactement. Ah ouais. Et je crois que j'ai déjà posé la question un jour, mais c'était parce que j'avais super envie. question numéro 2. Quel est le sous-titre d'Uncharted 2?
Julo.
Among Thieves.
Bravo avec la prononciation. Mm. Ça mériterait presque un point en plus, mais non. 2 points pour Julo. En ce moment, il est chaud.
J'ai un peu lâché. J'ai tellement voilà, lâché.
Mais c'est ouf, hein, Julo.
Je vais revenir.
Quel assassin turc croisé par Ezio Auditore à Constantinople dans Assassin's Creed Revelations a commencé sa carrière comme voleur? Et là, Julo, tu serais impardonnable de ne pas savoir.
Mais je sais,
tu as joué aussi à Revelations.
Non.
C'est vrai?
Non.
Ah mince.
Super épisode.
Je suis désolé, je pense que tout le monde a joué.
Je suis pas un grand fanatique de la série d'Assassin's Creed, sauf le 4 qui m'a vraiment beaucoup plu.
Je suis désolé alors.
C'est son prénom?
Oui, son prénom si tu veux.
Je crois que c'est Abdul.
Non, ce n'est pas Abdul. Bon, je pense que tu seras le seul à le savoir. Ouais. Alors, c'est Youssouf Tazim en fait.
Youssouf Tazim, je m'en rappelle.
Dans Revelations, toujours 2 points pour Julo. Question numéro 4. Quelle voleuse de légende peut-on incarner dans Batman Arkham City?
Ah, comment elle s'appelle déjà?
N'oublie pas de dire ton pseudo avant. Arkham City, Batman, je pense que c'est quand même pas trop difficile de trouver qui est une voleuse.
Julo.
Ah,
il a pas dit.
Ouais, mais bon, j'ai envie d'être
parle dans ton micro. En plus, on n'a pas entendu.
Oh,
Personne n'a entendu
la
ce
règle.
Qu'il a dit.
Ouais, on n'entend pas ce que.
Ok. Non, non, mais c'est vrai que t'avais pas dit ton pseudo, mais je vais accepter parce que c'est toi.
Oh putain. Ouais, il faut que tu parles. Donc là, j'avais mon point là. Merde.
Ouais, mais vous attendez pendant 10 secondes. Les
bah ouais. Alors, le micro.
Je suis
un
inconditionnel de Bachmann. Alors, faut me laisser.
Il faut dire ton nom.
Ouais. Alors, oublie pas de
dire. Il faut dire. Mais pourquoi il faut dire.
C'est parce que c'est la règle.
Ah bon d'accord.
On n'a pas de buzzer, donc on fait. Julo, Julien, AHL.
Voilà.
Ou Alain.
Tu dis Alain. Plus vite. Mais je te l'accorde. Voilà, parce que je suis très gentil. Attention, question numéro 5. Il est l'un des personnages les plus célèbres des jeux de baston de Namco. Tekken est sous le Calibur et il pille aux riches pour donner aux pauvres. Il s'agit de...
Julien.
Oui.
Yoshimitsu.
Exactement, Yoshimitsu.
C'est celle que je connais.
Oh. Oui. Mais oui, mais c'est lui, effectivement.
Voilà, je le connais. Évidemment, ah, je le
c'est vrai, j'avais oublié son côté Robin des Bois à Yoshimitsu.
Exactement. Un point pour Julien. Dans quel jeu découvre-t-on une voleuse dénommée Yuffie Kizaragi?
Julien.
Julien a dit en premier.
Final Fantasy VII.
Exactement, je t'ai pas trompé de numéro pour une fois.
Ouais, pour une fois.
J'ai raté ma rapidité, là. J'ai tout perdu. Là.
Ça fait donc 3 points pour Julien, si je ne m'abuse.
Commence
à creuser les cartes.
Infernal.
En 2007, sur PC, Focus Interactive fait s'affronter Sherlock Holmes et quel célèbre voleur?
Julien.
Ah, Julien en premier.
Arsène Lupin.
Exactement, Arsène Lupin. Bravo, Julien, 2 points.
Allez, là, je reviens. Là.
Quelle culture.
Attention. Quel jeu de Sega sorti sur 3DS en 2012 allie épreuve de rythme.
Julo.
Ouais.
C'est. Attends, putain.
Oh là 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 là,
Je l'ai.
Rhythm Thief.
Rhythm Thief, exactement. Putain, encore un point pour Julo. Putain, mais c'est incroyable, hein. Rhythm Thief et les Mystères de Paris. Quel jeu de 1993 que l'on doit à David Perry nous permet d'incarner un héros de Disney éponyme.
Julo.
Julo.
Aladdin.
Exactement. Petit voleur de son état dans le sultanat d'Agrabah. C'était Aladdin et je crois que Julo a remporté cette manche. Mais on va quand même faire la dernière. La dernière question et j'espère que vous avez une bonne mémoire. Dans Sly Cooper, on incarne un raton laveur voleur. Mais qui peut me citer le prénom et le type d'animal d'au moins un de ses comparses?
Ouais. Y a une tortue.
Ouais, mais son prénom.
Ah.
Alors c'est un.
Benny.
Ah, mais c'était pas loin. C'était pas loin, t'avais la première syllabe.
Ben.
Pense à une voiture.
Bumbo.
Non, mais Ben.
BMW.
Benz.
Non. Mais... De toute façon, personne l'aura, je suppose. Hein, mais bon.
Benzi.
Non, toujours.
Benzema.
Non. C'est une voiture, Benzema? Non, pas du tout. Bon. Personne
Ben Baker
personne n'a de réponse pour un sujet. Sly Cooper, c'est pas votre truc. Vous y avez non, pas.
Si, j'y ai joué, j'ai adoré, mais je m'en rappelle plus.
C'est Bentley, voilà.
Bentley, ah oui,
Bentley, la tortue.
Bien sûr.
Et l'hippopotame, c'est...
C'est Renault?
Non, c'est Murray.
Murray, ah bah oui.
Bon, c'est
bah
pas grave.
Que, bah maintenant que tu le dis, ça, oui, ça revient.
Bah ça vient tout seul, hein. C'est comme bah le numéro du loto, maintenant que c'est paru, je les connais.
C'est ça.
Bah merci. Bravo, Julo.
Merci
pour cette victoire. Tu reviens à 7 victoires, t'es à 2 victoires. Hein,
j'ai essayé là, une remontada, comme on dit.
Ah, mais t'as fait, mais c'est un truc de fou. Vraiment, là, tu t'es.
C'était explosif.
J'ai d'un seul coup, là. On l'a vu passer. Messieurs, merci à vous.
On l'a pas senti.
Julien, Alain, Julo, d'avoir participé à ce podcast, de nous avoir éclairé sur le plagiat, la contrefaçon, le vol dans le jeu vidéo. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, sur les forums, à compléter nos paroles, peut-être même à nous corriger, hein, si on a des bêtises, c'est largement possible. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast 290. D'ici là, jouez bien. Ciao.
Salut.
Ciao.
Ciao.
Et n'oubliez pas les histoires du jeu vidéo, ça revient cette semaine.
Ciao.
Ouais.
Youpi.